Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous rappelle d'abord, comme d'habitude, le plan du cours. Et aujourd'hui, c'est donc Pasquale Pasquino qui va nous parler de la fonction constitutionnelle du pouvoir judiciaire dans la doctrine de la séparation des pouvoirs à Versailles, Paris et à Philadelphie. Et dans le texte qu'il va nous présenter, et dont j'ai pu lire une version en langue anglaise, Pasquale compare les conceptions et les fonctions du judiciaire dans les régimes américains et français. Après sa présentation, je ferai quelques remarques sur son interprétation du modèle américain. Et dans cette petite introduction, je vais attirer votre attention sur un aspect du judiciaire et de ses rapports à l'exécutif qui me semble intéressant, bien qu'il ne semble pas être au cœur de la présentation que vous allez entendre. Mais Pasquale nous dira pourquoi, nous dira s'il pense qu'il a quand même une pertinence pour ses propos. La question qui m'intéresse est celui de la possibilité d'une pression de l'exécutif sur les divers acteurs du système judiciaire, jurés, juges et procureurs. Aux États-Unis, on parle en effet souvent d'un bicaméralisme judiciaire. La Cour suprême en constitue la Chambre haute et le jury, surtout le jury criminel, la Chambre basse. Les États-Unis ont en effet adopté et développé la tradition anglaise selon laquelle un juré pouvait et devait acquitter un accusé s'il avait un doute sur le caractère constitutionnel de la loi qui faisait de son action un crime. De plus, les jurés pouvaient et devaient acquitter l'accusé si l'accusation avait un caractère politique. Il en existe très nombreux exemples. Pour empêcher la corruption ou l'intimidation des jurés, non seulement de la part de l'accusé, mais aussi de la part du procureur de la République, ils furent choisis par le tirage au sort à la dernière minute. De même, aux États-Unis, la désignation des juges pour un procès se fait aussi souvent par un mécanisme aléatoire. Selon certains, c'est une garantie essentielle de la rule of law ou de l'état de droit. Et la question de la non-ingérence de l'exécutif dans le judiciaire se pose également à propos du parquet. Dans la France contemporaine, comme vous le savez par les journaux, l'indépendance du parquet semble parfois assez fragile. Il n'est certainement pas inscrit dans la Constitution. Il s'agit pourtant, à mon avis, d'une pièce essentielle dans la séparation des pouvoirs, notamment pour assurer que le gouvernement soit incapable de bloquer une enquête qui pourrait se révéler politiquement délicate. La Constitution italienne, adoptée en 1947, garantit cette indépendance du procureur de la République dans ces termes. Elle garantit non seulement l'indépendance des juges, des juridictions spéciales, mais aussi celle du procureur de la République. Et en Grande-Bretagne, aujourd'hui, l'indépendance de l'Attorney General est un fait indéniable. Et puisque ce pays n'a pas de constitution écrite, cette indépendance existe en vertu d'une convention de la Constitution. Et elle n'a pas toujours existé. Jusque dans les années 1920, il était généralement accepté parmi les magistrats du Royaume-Uni que le gouvernement avait le droit d'exercer un pouvoir de dernière instance au cas d'une poursuite qui soulèverait des questions importantes de politique générale. Mais cet état de choses fut brusquement modifié à la suite d'un scandale en 1924, quand, sous le gouvernement travailliste de MacDonald, un nommé Campbell fut poursuivi pour sédition envers les soldats britanniques. Et à la suite de pressions exercées par le parlementaire du Parti travailliste, le gouvernement demanda que l'accusation soit retirée. La décision de le faire fut accueillie par un tollé général, entraînant la démission du gouvernement. Bien que nous sachions maintenant que la décision de ne pas poursuivre Campbell avait été prise avant la demande du gouvernement, sur la seule initiative de l'Attorney General, qui avait peu de confiance dans la possibilité d'obtenir une condamnation, la situation était moins transparente à l'époque. Quoi qu'il en soit, on ne saurait douter que depuis 1924, les titulaires de la charge d'Attorney General des deux principaux partis ont affirmé que par une convention non écrite en matière de l'initiation et du désistement d'une poursuite, l'Attorney General exerce sa fonction indépendamment du gouvernement et qu'il serait dans son droit s'il refusait d'en être instruit. Bon, je m'excuse un peu pour ces remarques peut-être tout à fait marginales et non pertinentes, mais je vous donne maintenant la parole à Pasquale.
Merci. Oui, non, bien entendu, la question que tu soulèves est tout à fait importante. Il suffit de penser à l'actualité politique française et au conflit entre l'exécutif et le judiciaire depuis quelques jours. Mais mon exposé porte sur un problème très spécifique, comme vous allez le voir, à savoir le rôle du judiciaire dans la balance des pouvoirs, du point de vue de la théorie constitutionnelle. Donc ça ne porte pas exactement sur le judiciaire, mais sur le système constitutionnel dans la tradition française, dans la tradition américaine, et sur le rôle que le pouvoir judiciaire ou l'autorité judiciaire joue dans ces traditions. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la séparation des pouvoirs...
Peut-être changer de place et préparer le...
Oui, peut-être que c'est... Parce que si je veux montrer certains diapos... Enfin,
on va vous expliquer comment le faire.
Il faut sortir.
Oui, pour que je sorte. On n'a pas demandé comment sortir. Comment je sors?
Mettre fin au diaporama, peut-être.
Oui, peut-être.
Ben oui.
Non. C'est... Non, il faut chercher le tien.
Là, il va être là.
C'est ça?
Oui, ou clique là-dessus.
Bon.
Voilà. OK, mais c'est ça. Et puis, là. Non. Attends. Il faut aller là. Qu'est-ce que tu as fait? Majuscule 5. Voilà. Bien, je disais oui, voilà, que l'objet de ces remarques est d'ordre de la théorie constitutionnelle. Depuis la fin, je disais, du XVIIIe siècle, la séparation des pouvoirs a été un élément essentiel et, en un sens, un synonyme du constitutionnalisme moderne. Les travaux de Michel Trobert et d'ailleurs la théorie de la Constitution de Schmitt sont, à mon sens, les textes descriptifs les plus importants à ce propos. Il peut être utile d'éclaircir dès le début deux dimensions ou deux aspects sous-jacents à la question que je voudrais discuter maintenant. D'abord, la séparation des pouvoirs était conçue, d'une manière générale, comme une technique ou un mécanisme ou un instrument de l'ingénierie constitutionnelle, et plus spécifiquement, comme un principe anti-despotique ou anti-absolutiste de l'organisation du gouvernement, et non pas en tant qu'un but en lui-même. Le but de ce dispositif était plutôt, comme vous le savez bien, la liberté individuelle. Dans un texte de Bergasse que je vais analyser par la suite, on lit par exemple que le but de la Constitution fondée sur la séparation des pouvoirs est la garantie de la liberté individuelle. Non. Il est clair qu'il y a un but et un moyen. Or, pour comprendre les interprétations alternatives françaises et américaines de ce principe instrumental, il peut être utile de faire un pas en arrière et de considérer brièvement une différence entre deux interprétations possible de cette idée de liberté individuelle. D'un côté, et notamment si l'on suit Montesquieu et ce qu'il dit dans le livre 11 de l'Esprit des lois, la liberté individuelle semble être la même chose que la certitude du droit. L'idée que les commandements du pouvoir politique dans une société donnée doivent être stables et avoir un caractère général. Car la stabilité et la généralité sont des caractéristiques essentielles d'un gouvernement modéré. Schmitt, dans la théorie de la Constitution, écrit d'une manière parfaitement claire que la séparation entre législatif et exécutif doit empêcher cette combinaison de normes générales et de prescriptions particulières individuelles et despotique tout gouvernement qui peut prendre des décisions particulières sans être lié par les lois générales fermes et durables. Je fais une remarque marginale importante. La théorie de la Constitution de Schmitt, indépendamment des options personnelles et politiques de l'auteur, est certainement la meilleure description d'un système constitutionnel libéral-démocrate. J'en connais pas de meilleur du point de vue descriptif. Le fait qu'il n'aime pas ce système n'a aucune importance. Il est capable de le décrire beaucoup mieux que ceux qui l'aiment. Donc je vous envoie, si vous voulez avoir une bonne description de ce que c'est qu'une constitution libérale démocrate, hein, la théorie de la constitution de Schmitt. Or, donc cette idée de liberté implique que les commandements doivent avoir la forme abstraite de la loi, au sens que ce terme a dans le deuxième traité de John Locke, c'est-à-dire une règle stable qui est faite par un législateur souverain sous un voile d'ignorance, si je puis dire, concernant l'application concrète de la loi. La conséquence importante qui lie entre la loi et la liberté, la loi comme cette forme spécifique du commandement, est que dans un gouvernement de la loi, les membres de la société sont capables de prévoir les conséquences de leurs actions, étant libres de la peur, c'est un mot utilisé par Montesquieu, qu'une nouvelle loi soit produite pendant le cours de leurs actions, en rendant de cette manière illégale ou sans aucune valeur les passages nécessaires pour un individu qui veut atteindre une fin donnée. Et donc, disons, le gouvernement de la loi le libère aussi de la peur que le commandement soit utilisé contre un individu spécifique que le législateur souverain voudrait disqualifier, attaquer ou oppresser, car la loi doit avoir un caractère de généralité. De l'autre côté, la garantie de la liberté individuelle peut demander plus que la stabilité ou la généralité des commandements. La garantie de la liberté individuelle peut impliquer de définir une sphère d'action qui sera au-delà de l'attente du pouvoir des majorités élues. Une sorte d'espace sacré qui ne doit pas être envahi par les commandements ou par la législation. Il n'est pas moins important et lié avec ces différentes intuitions qui concernent le but constitutionnel de la protection de la liberté individuelle. Comme nous allons le voir, que la doctrine de la séparation des pouvoirs, qui est incorporée respectivement dans la matrice constitutionnelle américaine et française, eh bien, elle n'est pas du tout la même. Et elle fait valoir deux différentes versions du même principe, et spécifiquement deux conceptions différentes de la stabilité d'un ordre légal et politique de type anti-despotique. Or, dans mon exposé, je vais me concentrer sur ce deuxième point, sans revenir sur les différentes interprétations de la liberté, et plus précisément, je vais me concentrer sur la question du rôle constitutionnel qui est attribué au judiciaire dans les deux versions, américaine et française, de la séparation des pouvoirs. Or, pour ce faire, je vais comparer sur cette question la pensée de deux penseurs et de deux acteurs politiques importants de la fin du XVIIIe siècle, le français Nicolas Bergasse et l'américain Alexander Hamilton. Il s'agit dans les deux cas de bons spécialistes du droit, avocats, les deux, qui ont participé au processus constituant, à Philadelphie et à Versailles, des deux côtés donc de l'océan. Le Lyonnais en tant que membre du premier comité de constitution de l'Assemblée nationale en 1789 et l'Américain en tant que participant actif de la Convention de Philadelphie en 1787 et en tant qu'auteur, avec James Madison, des Federalist Papers, qui sont encore aujourd'hui le commentaire le plus respecté de la Constitution américaine. Nicolas Bergasse, qui était né à Lyon en 1750 et qui est mort à Paris en 1832, venait d'une famille bourgeoise, avait fait des études de droit et, comme beaucoup de membres de la première assemblée constituante française, il était membre d'un barreau. Il était membre notamment du barreau de Paris. Il était connu par l'opinion publique à cause d'une affaire importante à l'époque, l'affaire Kornmann, qui opposa Bergasse à Beaumarchais. Il fut élu aux États généraux en tant que représentant du tiers-État et, comme je viens de le dire, fut l'un des membres du premier comité de constitution pendant l'été 89. Et lorsque l'Assemblée, rejectant le projet de constitution présenté par les monarchiens Monnier, Lally, Tollendal, basé sur le bicaméralisme et le pouvoir absolu de veto attribué au roi, Bergasse donna ses démissions du comité de constitution le 12 septembre 89. Fut l'un des rares survivants à la terreur parmi les membres modérés de la Constituante et après la Révolution devint un homme politique ultra-conservateur. Malheureusement, il n'existe à ma connaissance qu'une seule biographie de Bergasse faite par un de ses arrière-neveux et il n'y a pas de travaux sérieux à ma connaissance donc sur ce personnage et sa pensée constitutionnelle. Alexander Hamilton, qui était né dans les Indes occidentales en 1755, peut-être, on ne sait pas exactement sa date de naissance, et qui mourut à New York lors d'un duel, est défini d'une manière un peu pompeuse par Wikipédia comme un officier de l'armée américaine, un avocat, un père fondateur, un homme politique américain, un homme d'État très important, un financier et un théoricien de la politique. Il est, pour mon propos ce soir, surtout l'auteur de la section 78 des Federalist Papers, où Hamilton présente une doctrine tout à fait remarquable du rôle constitutionnel des cours de justice en tant que protectrice de la liberté individuelle. Une doctrine à laquelle je vais m'intéresser après avoir présenté celle de Bergasse. Le français est donc représenté avec Mounier, Lalit Hollanda et Clermont-Tonnerre. Le courant le plus modéré et sans doute le plus proche de Montesquieu dans le spectre politique de l'Assemblée constituante française. Connu grâce à son rapport sur l'organisation du pouvoir judiciaire qui mit les bases des lois de 1790, Bergasse est l'auteur d'un texte important publié au moment où il donna ses démissions du comité de constitution, texte dans lequel on peut voir clairement son idée de la séparation constitutionnelle des pouvoirs. Ce texte s'appelle « Discours sur la manière dont il convient de limiter le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ». D'ailleurs, il se trouve tout à fait, bien que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est la suite de ce dont a parlé ici la fois dernière Arnaud Pilluet, parce que, en tout cas dans le cas français, quand on parle du pouvoir judiciaire, il est essentiellement question du pouvoir exécutif, comme on le verra. Donc, dans ce petit texte, Bergasse veut exposer ce qu'il appelle lui-même l'opinion modérée au sens de Montesquieu, concernant la manière par laquelle une constitution peut garantir la liberté individuelle. Maintenant, vous savez qu'il s'agit de ça. Pour atteindre ce but, la fonction essentielle de la constitution consiste à limiter le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ici, il y a un premier élément important qu'il faut éclaircir. D'après notre auteur, les trois pouvoirs de la classification traditionnelle de Montesquieu sont en réalité simplement deux, car en fait, le pouvoir judiciaire n'est qu'une partie du pouvoir exécutif. Ce qu'on appelle improprement, je cite là un texte de Duport qui dit la même chose, ce qu'on appelle improprement le pouvoir judiciaire, je dis improprement parce qu'il n'y a réellement de pouvoir dans l'ordre judiciaire que le pouvoir exécutif. Arnaud avait cité, je pense, la semaine dernière, un texte de Rousseau qui explique à peu près la même chose. Bergasse a une conception d'une constitution antidespotique qui est fondée sur l'idée en vertu de laquelle il faut limiter les deux pouvoirs. Dans sa conception, le pouvoir du roi et le pouvoir d'un parlement bicaméral élu, plus un veto royal qui implique un recoupement partiel des deux pouvoirs, dans le sens que le roi exerce une partie du pouvoir législatif. Et pour lui, la séparation des pouvoirs consiste à éviter l'attribution totale d'une fonction différente à la même branche ou organe du gouvernement. Pour obtenir ce but, il faut exclure un certain nombre de configurations. Arnaud avait parlé l'autre fois, je pense, de une dimension négative de la théorie de la séparation des pouvoirs. C'est ça l'essentiel. La théorie de la séparation des pouvoirs, comme les grandes théories de Montesquieu, ce sont des théories qui vous expliquent ce qu'il ne faut pas faire. Montesquieu, comme j'ai appris par Bernard Manin, a une théorie claire de ce qui n'est pas bien. Et puis, sur ce qu'il faut faire, les choses sont plus compliquées, ça peut dépendre des contextes, etc. Mais il y a une idée très claire de ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'attribuer la totalité du pouvoir judiciaire au pouvoir législatif, la totalité du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, ou encore la totalité du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. Et on peut voir les détails de ça, mais je ne voudrais pas être trop long, donc je saute l'analyse, disons, de ce qu'il faut éviter dans un bon système de la séparation des pouvoirs. Là, et je passe à la proposition positive que Bergasse offre, et qui est donc sa manière de considérer la séparation des pouvoirs ou des fonctions. Le juge doit être séparé et subordonné vis-à-vis du pouvoir législatif. La raison de ce choix est plutôt simple, c'est que ce n'est, je cite, que par la loi que se maintient la liberté. Je voudrais m'arrêter sur cette proposition car elle semble intuitive et elle demande pourtant d'être analysée de plus près. L'argument avancé ici, ce n'est pas d'opposer le législateur au juge, où le premier serait impartial, vertueux et motivé par la raison, et le dernier arbitraire et poussé par des passions mauvaises. Cette idée serait simplement ridicule et contradictoire avec une simple analyse superficielle de la réalité. Le point, comme j'ai essayé déjà de dire, a à faire avec la distance qu'il faut établir entre le législateur et les citoyens, et avec le fait que la loi doit avoir une forme générale et abstraite. Le juge et sa décision sont considérés trop proches des parties, avec la conséquence de rendre la neutralité plus difficile à atteindre de la part du juge qui est proche de ceux dont le conflit il doit juger. Le législateur étant loin et produisant des lois abstraites générales, à une distance suffisante vis-à-vis des sujets. Bergasse, comme d'ailleurs les hommes de la Révolution, n'a aucune intuition que le contraire peut aussi être vrai. Je pense que si on a une idée de la justice en tant qu'épieikeia, au sens aristotélicien de ce terme, qui est autre chose que la simple application de la loi, ceci implique exactement cette possibilité d'être juste au sens de aristotélicien de l'épigéique, et ceci implique la proximité que Bergasse craint sur toute autre chose. Mais cette question n'est pas la question que je vais discuter aujourd'hui. De même que le législatif, l'exécutif aussi doit être séparé et subordonné au pouvoir législatif, de sorte que la limitation des pouvoirs semble consister dans le choix d'attribuer aux deux branches, disons, de l'exercice du pouvoir, des fonctions spécifiques. Le législateur produit des règles générales, et l'exécutif et les judiciaires appliquent et font valoir ces lois générales. Mais ici apparaît une nouvelle question qui est un peu difficile de comprendre. Alors, il faut que j'essaie. Voilà. C'est donc dans ce texte de Bergasse que je suis en train de commenter qu'on lit « Contenez le pouvoir législatif par le pouvoir exécutif et il n'y a plus d'arbitraire dans la Constitution », c'est-à-dire que la Constitution, une fois déterminée pour la liberté, demeure immobile et qu'il n'est plus possible au pouvoir législatif le plus redoutable de tous, quand il n'est pas limité, d'en rompre l'enceinte ou d'en déroger l'organisation. Bon, ces propositions demandent quelques commentaires. Vous voyez d'abord que la stabilité, ou comme il dit littéralement, l'immobilité de la Constitution est une préoccupation fondamentale. Et on comprend pourquoi. Si la Constitution est l'organisation du pouvoir politique qui doit garantir la liberté individuelle, indépendamment de la signification de cette expression, il est évident que la Constitution doit être stable, hein, parce que c'est elle, dans sa stabilité, qui protège la liberté individuelle. Ce pouvoir politique doit être organisé donc comme une poliarchie qui fait en sorte que ce soit impossible pour les pouvoirs constitués de changer l'organisation constitutionnelle. Il doit y avoir donc une règle qui crée ou définit les forces institutionnelles et une règle qui doit gouverner ces forces institutionnelles, la Constitution. Ceci est en même temps le défi et la difficulté pour chaque entreprise de rédaction constitutionnelle qui doit être, qui est en même temps plutôt la faiblesse et la supériorité de l'idée moderne d'une constitution écrite et rigide, comme l'était la Constitution américaine et la Constitution française, vis-à-vis d'une Constitution customary, basée sur des conventions non écrites du genre de la Constitution britannique. Now, maintenant, cette entreprise, si elle veut être raisonnable et avoir des espoirs de succès, a besoin d'identifier les points faibles de la machine, les points de tension ou de friction où la machine peut se casser. Et ceci pour les réparer, si on peut dire, et pour éviter que le système se casse. Bergasse, comme dans un contexte différent, James Madison, identifie un point particulier de faiblesse du système et donc un danger pour la stabilité constitutionnelle dans l'existence même du pouvoir législatif. Ce pouvoir législatif, hein, il peut devenir, peut se transformer dans un despotisme de la multitude. Donc, et dans le discours, Bergasse écrit que le pouvoir législatif, dès qu'il est illimité, devient despotique. La réponse à cette question est la même qu'avait proposé Montesquieu dans l'Esprit des lois, dans le livre, la section de l'Esprit des lois consacrée à la Constitution d'Angleterre. À côté de la spécialisation des pouvoirs, Bergasse suggère de partager le pouvoir législatif entre trois acteurs. Parce que c'est ça le siège du danger. L'excès de pouvoir, de ce pouvoir souverain, de cette fonction souveraine. Donc il faut le casser en trois parties, les deux chambres du Parlement et le roi. Je n'ai pas besoin ici d'entrer dans les détails de son projet, qui trouva d'ailleurs une forte et obstinée opposition de la part de l'Assemblée constituante, qui, comme vous le savez, refusa en même temps l'idée du bicaméralisme et l'idée d'un veto absolu que le projet des monarchiens, dont faisait partie Bergasse, voulait faire passer. Or, deux arguments méritent d'être rappelés. D'un côté, que le système bicaméral, en rendant plus développé le processus de délibération, je reviendrai sur ce thème, pourrait, le bicaméralisme, augmenter la probabilité que la loi soit l'expression de la raison et de l'intérêt général plutôt que de l'intérêt particulier et des passions. Vous voyez qu'on retrouve dans le langage, disons, de Bergasse, comme de beaucoup d'eux, cette trilogie que Jon Elst aime beaucoup, qui est en fait dans les textes de la raison, des intérêts et des passions. Dans cette trilogie classique du XVIIIe siècle, on trouve aussi l'idée que la loi, c'est ça un point que je voudrais souligner, la loi n'est pas n'importe quelle forme autorisée de commandement, mais c'est une forme spécifique, celle qui exprime la raison collective en tant que résultat d'un processus décisionnel ou de décision qui va, dans le langage de Bergasse, sous le terme de délibération. Ce terme de délibération, soyons précis, ne qualifie aucune modalité spécifique de la discussion, ni un mécanisme particulier de prise de décision. Notamment, le rôle de la majorité de la minorité dans le processus de prise de décision n'est pas du tout discuté. Et il ne semble jouer aucun rôle dans la théorie politique de la Révolution française. Délibération est simplement le synonyme d'une décision qui n'est ni intéressée, ni le produit de passion, et qui résulte d'un processus qui est lent et compliqué. C'est ça que ça veut dire délibération chez Bergasse. Une décision qui, grâce au fait, et le bicaméralisme a cette fonction, ça n'a rien à faire avec le bicaméralisme à l'anglaise des Lords et des communes. Les deux chambres ne doivent pas représenter des parties de la société. Les deux chambres, ce sont deux moments de discussion qui doivent dépurer la décision de toute interférence des passions et des intérêts. De l'autre côté, le veto royal, dont on va parler dans deux séances avec Michel Trottmer, doit protéger le chef de l'exécutif de l'invasion du législatif. Vous trouvez la même idée chez James Madison. Mais encore une fois, faites bien attention, il ne s'agit pas de protéger la personne du roi, ce qui était le cas dans le système mixte anglais. Il s'agit de protéger une fonction institutionnelle qui incite à la dépuration des intérêts et des passions dans la prise de décision collective. Le roi est un fonctionnaire du processus délibératif, donc du processus qui produit une décision raisonnable, donc non intéressée et non passionnée. Et en ce sens, le veto protège un ressort de cette machine de prise de décision et non pas la couronne, hein, qui est une des rangs de la société Standish, hein, qui est faite d'ordre et d'État, qui existe en Europe, partout, sous les anciens régimes. Quand il n'y a pas un gouvernement absolu, il y a des Standish Gesellschaften, hein, des sociétés d'ordre. Et disons, le roi est un des fragments de la société qui doit être d'accord avec les autres, mais non pas pour produire une décision raisonnable, mais pour produire une décision qui accommode, si je peux dire, les intérêts de la couronne. Ici, il n'y a pas d'intérêt du roi dans cette philosophie constitutionnelle. Et donc, toute cette machinerie compliquée de la prise de décision, car, je cite Bergasse, le pouvoir législatif tend nécessairement à envahir tous les autres pouvoirs s'il ne trouve personne qui a la faculté d'en arrêter l'action. C'est du Montesquieu pur, évidemment. De tout cela, il est clair, vous le voyez bien, que le pouvoir judiciaire, hein, en tant que tel, ne joue aucun rôle actif dans la stabilisation de l'ordre constitutionnel, qui est la préoccupation importante de Bergasse. L'ordre constitutionnel protecteur de la liberté individuelle est le résultat d'une balance qui est interne au pouvoir législatif et à une séparation de ce pouvoir. De sorte que le pouvoir judiciaire ne représente qu'une sous-fonction exécutive, celle qui consiste à donner un règlement au conflit entre parties dans un tribunal, et il est attribué à des magistrats, pour Bergasse, spécialisés, dont la fonction est de juger des conflits grâce à une application stricte des normes générales, donc des lois, qui sont, elles, le résultat de ce processus rationnel de délibération. Bon. Nicolas Bergasse est plus connu un temps qu'auteur du rapport remarquable sur l'organisation du pouvoir judiciaire présenté à l'Assemblée nationale en 17 août 89. Ce texte est bien connu et est à la base des lois très importantes votées par les constituants au mois d'août et au mois de novembre 1790. Et je vais là aussi me limiter peut-être à un seul point. Le point suivant, le fait que le juge ne doit pas interférer avec la fonction législative. Le pouvoir judiciaire sera donc mal organisé si les dépositaires de ce pouvoir, les juges, ont une part active à la législation ou peuvent influer en quelque manière que ce soit sur la formation de la loi. Et il rajoute une des illusions typiques de cette culture constitutionnelle. Le pouvoir judiciaire sera donc mal organisé si le juge jouit du dangereux privilège d'interpréter la loi ou d'ajouter à ses dispositions. Car on aperçoit sans peine que si la loi peut être interprétée, augmentée ou ce qui est la même chose, appliquée au gré d'une volonté particulière, l'homme n'est plus sous la sauvegarde de la loi. La loi qui est ce processus qu'on a vu et qui n'est pas la volonté d'une majorité, hein, appelé aux arts. Il n'est plus sous la sauvegarde de la loi, mais sous la puissance de celui qui l'interprète et qui l'augmente. Et le pouvoir d'un homme sur un autre homme étant essentiellement ce qu'on s'est proposé de détruire par l'institution de la loi, on voit clairement que ce pouvoir, au contraire, acquérait une force prodigieuse si la faculté d'interpréter la loi était laissée à celui qui en est dépositaire. Donc, le couple volonté générale ou raison et loi s'oppose au couple volonté particulière, pouvoir arbitraire, comme un mantra, une phrase magique, qui a le pouvoir de faire naître la fiction extravagante d'un juge qui n'a ni de discernement ni de volonté. Bergasse a des propositions à faire sur la modalité de nommer les juges, qui sont un peu différentes de celles qui furent choisies par la Constitution de 91, mais je n'ai pas besoin de m'arrêter sur ces aspects-là. Venons-en donc à Alexander Hamilton. Qui, d'ailleurs, lui, dans ce texte part exactement de la question de la nomination des juges fédéraux. Un point qui a été, de l'autre côté de l'Atlantique, objet de discussions importantes lors de la ratification de la Constitution préparée à Philadelphie en 1797. Or, c'est Alexander Hamilton qui eut la tâche non seulement de défendre dans les Federalist Papers l'exception représentée par les membres du pouvoir judiciaire fédéral vis-à-vis du principe républicain de la responsabilité devant le suffrage, car les juges fédéraux ne sont ni élus, ni donc responsable devant le suffrage, par les citoyens, ni élu par les citoyens, ni responsable devant les citoyens de leurs décisions. Mais il prit sur lui la tâche de refuter les objections présentées par l'un des critiques les plus sophistiqués de la Constitution proposée à Philadelphie, le anti-federalist Brutus. Or, c'est déjà, il y avait une division du travail. Madison présente l'essentiel de la Constitution, mais Madison était un humaniste. Donc, c'est son collègue et ami à l'époque, Alexander Hamilton, qui était un juriste, qui écrit les sections où la Constitution américaine est, disons, développe les dispositions relatives au pouvoir judiciaire. Donc, en tout cas, c'était déjà Madison, dans la section 39, qui fait état de la circonstance singulière d'après laquelle le pouvoir judiciaire était organisé en faisant exception au principe électif qui est à la base du gouvernement que les Américains voulaient établir pour les 13 anciennes colonies britanniques. L'exécutif et le législatif, ou plus précisément le Congrès et le président, sont élus et responsables devant les suffrages. Ce n'est pas le cas des juges fédéraux et c'est une question, c'est une exception, disons, qui demande justification sur laquelle Madison et Hamilton ont à s'expliquer. Mais je vais me concentrer ici sur la section 78 des Federalist Papers, dans laquelle Hamilton présente une doctrine originale du pouvoir judiciaire et notamment du rôle du pouvoir judiciaire dans l'ordre et la stabilité de la Constitution. Cette doctrine, j'insiste sur ce point, non seulement elle est différente de celle qu'on vient de voir présentée par Bergasse, mais elle est différente aussi de la doctrine présentée par James Madison dans les sections 47-51, qui sont considérées par la plupart des lecteurs américains, même du Federalist, comme le texte capital où est spécifiée la doctrine autoritative et définitive de la séparation des pouvoirs dans la Constitution américaine. Mes étudiants à New York savent tous que la doctrine de la séparation des pouvoirs, c'est ce que James Madison présente dans la section 47-51. Et j'ai beaucoup de mal à leur faire accepter qu'en réalité que c'est plus compliqué et qu'il y a la section 78 qui est importante et qui même présente une version différente, pas incompatible, mais différente et qui est plutôt descriptive de la réalité constitutionnelle américaine, en tout cas d'aujourd'hui. Comme on va le voir, à la différence de Bergasse et de Madison, pour Hamilton, le pouvoir judiciaire joue un rôle capital et actif dans ce qu'on peut appeler l'équilibre constitutionnel, en garantissant la structure hiérarchique du système légal et la supériorité des normes constitutionnelles vis-à-vis des lois édictées par le Congrès et le président titulaire du pouvoir législatif. Brutus avait affirmé que la Cour suprême, la seule Cour créée par la Constitution dans son article 3, concentrait sur elle-même un pouvoir exorbitant. Et il ajoutait, en parlant des juges fédéraux, je cite à peu près en traduisant comme je peux de l'anglais, que ces juges fédéraux sont totalement indépendants du peuple et du pouvoir législatif en ce qui concerne leur position institutionnelle et leur salaire. Et ils vont agir subordonnant à eux-mêmes les juges des États membres de l'Union. Il faut distinguer les juges fédéraux et les juges des États membres de l'Union américaine. Et peut-être même ces juges fédéraux vont, prendre le pouvoir sur l'autorité législative des États membres. Il est évident du contexte de cette citation que Brutus, avec son deuxième argument, était en train d'essayer de préserver les compétences judiciaires et législatives des États membres vis-à-vis des compétences du gouvernement central. Il y a tout un débat qui est un peu difficile pour nous éduqués à la culture constitutionnelle française de comprendre sur les compétences relatives du gouvernement central et des États. Les Français diraient qu'il n'y a pas de souveraineté aux États-Unis parce qu'elle est divisée. Comme vous le savez, la souveraineté, dit Rousseau, ne peut pas être partagée. Donc les États-Unis, ce n'est pas possible. Bon. Il existe néanmoins. Et la souveraineté est partagée, les compétences sont partagées entre le gouvernement central et les gouvernements des États. Et Brodus, comme les antifédéralistes la plupart du temps, est hostile à la constitution de Philadelphie, car il pense que cette constitution donne trop de pouvoir au gouvernement central. Donc, ça c'est un aspect important de tout le débat, mais le point central pour ce qui me concerne ici n'a rien à faire, enfin je laisse de côté le débat sur la structure fédérale de la Constitution américaine, mais je vais me concentrer sur la critique que Brutus adresse à cette idée d'un pouvoir judiciaire fédéral indépendant. Indépendant vis-à-vis, comme il le dit, du contrôle populaire et du pouvoir législatif. Parce qu'ils ont tenure et ils ne peuvent pas être, disons, suspendus ou démissionnés par force, ni par des citoyens, car ils ne sont pas élus, ni par le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif sur la base de leurs décisions judiciaires. Impeachment, ce n'est pas une procédure qui a un rapport avec la décision du juge, un rapport avec le comportement du juge, indépendamment de sa décision. Or, si Brutus a raison dans sa critique de la Constitution qui attribuerait trop de pouvoir au judiciaire fédéral, pour commencer, on se trompe lorsqu'on attribue au Chief Justice Marshall, président de la Cour suprême John Marshall, l'invention du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois aux États-Unis. Cette attribution est fausse, si Brutus, comme je le pense, a raison, car la critique de critique, c'est-à-dire Brutus, de la Constitution de Philadelphie avait vu parfaitement bien ce qu'elle impliquait, un pouvoir important assigné aux juges fédéraux. En tout cas, Publius, qui est le pseudonyme sous le nom duquel Hamilton écrit ses contributions aux Federalist Papers, comme d'ailleurs Madison. Donc les auteurs du Federalist Papers et Hamilton se rendirent compte immédiatement qu'ils étaient obligés de répondre aux critiques explicites qui étaient adressées par les anti-fédéralistes et notamment par Brodus, à l'article 3 de la Constitution, qui organise donc le pouvoir judiciaire fédéral. Et comme on va le voir, Hamilton, dans sa réponse à Brutus, ne va pas nier le fait que la Cour suprême a des pouvoirs très importants. Mais il va, en revanche, grâce à une conception originale de la balance des pouvoirs, et va montrer que c'est bien que la Cour suprême et que les cours de justice aient des pouvoirs importants dans le cadre, je vous le disais, d'une vision originale d'un mécanisme d'équilibre constitutionnel où le pouvoir judiciaire a un rôle fondamental pour le maintien de cet équilibre. Et il a un rôle fondamental pour garantir ce pourquoi on veut établir la séparation des pouvoirs, à savoir la liberté individuelle. Sans pouvoir important attribué aux cours de justice, on ne peut pas garantir la liberté individuelle. C'est ça la thèse de Hamilton. Pour éclaircir ce que je veux dire, j'ai besoin de faire un petit pas en arrière. Mais disons, je vous le disais, dans la section 39 avait écrit que le principe du républicanisme, au sens américain du terme, hein, au sens moderne du terme, consiste dans l'idée que grâce à des élections périodiques, les organes les plus importants du gouvernement dépendent d'une autorisation populaire. C'est ça le républicanisme moderne. Le principe électoral comme fondement de l'autorité des organes importants du gouvernement. Maintenant, dans une société post-aristocratique, vous savez que la Constitution américaine élimine l'aristocratie et post-monarchique, tel qu'étaient donc les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, simplement ou seulement l'élection qui attribue un mandat pour un temps limité peut justifier l'exercice du pouvoir gouvernemental de homme sur des êtres humains. Je dis d'hommes parce que le gouvernement des femmes aux États-Unis dut attendre au moins un siècle après l'établissement de la Constitution pour que les femmes participent donc à l'ensemble des citoyens qui autorisent un gouvernement. Madison. Donc l'élection, c'est le seul moyen pour les pères fondateurs qui autorisent des hommes à gouverner les citoyens. Mais Madison doit introduire une exception à ce principe républicain, car les juges fédéraux non seulement ne sont pas élus par les citoyens, mais ils ont un mandat pour la vie, qui est restreint simplement par la règle traditionnelle anglaise qu'on appelle « good behavior ». Il ne faut pas commettre des crimes. Si un juge commet des crimes, il est puni comme n'importe quel citoyen. Mais ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions qu'il est contrôlé, pas pour ses décisions, en tout cas pas dans le cas de la Cour suprême, parce que bien sûr, toutes les décisions des cours inférieurs peuvent être corrigées par des cours supérieurs jusqu'au point où on doit s'arrêter, sinon le système judiciaire n'a plus de sens si on ne s'arrête pas. Personne n'irait voir des juges s'ils savaient que le processus dure indéfiniment, qu'il n'y aura jamais de solution. Donc il faut qu'il y ait un moment où le contentieux s'arrête. Alors, Madison, considère qu'il y a cette exception qui est en fait double. D'un côté, les juges ne sont pas responsables devant les électeurs, mais aussi ils sont pas indépendants. Un principe, je ne vous lis pas la citation, mais je peux la résumer simplement. Un principe du gouvernement républicain par Madison est que chaque organe suprême est une légitimité indépendante. Indépendante, ça veut dire, par exemple, que le président, le chef de l'exécutif, n'est pas autorisé par une autre pouvoir constitué. Il est autorisé toujours par la même source d'autorité républicaine, les citoyens électeurs. Le président est indépendant du Congrès parce qu'il est autorisé indépendamment. Ce n'est pas comme un premier ministre. Un premier ministre a une autorisation de deuxième ordre, si je peux dire. Nous, on autorise. Nous, ça dépend des systèmes. En Angleterre, on autorise le Parlement et les communes, plus exactement, autorisent à leur tour le Premier ministre anglais qui n'est pas indépendant, il est dépendant du Parlement. Or, pour les pères fondateurs américains, les pouvoirs suprêmes sont indépendants, il y a une légitimité populaire pour les membres du Congrès et pour le président. Ceci n'est pas le cas pour le judiciaire, donc deuxième exception, ils ne sont pas accountable, ils ne sont pas responsables dans le suffrage, mais ils ne sont pas indépendants, parce qu'ils sont nommés par le président avec l'accord du Sénat. Mais il y a une troisième anomalie dans le modèle médisonien concernant la structure du pouvoir judiciaire, car les juges, pour Madison, et je m'arrête sur ce point parce que je veux vous montrer la différence entre Madison et Hamilton. Pour Madison, les juges ne jouent aucun rôle constitutionnel de contre-pouvoir. Même dans un sens d'autodéfense. Les raisons pour lesquelles Madison introduit ces anomalies concernant l'organisation du pouvoir judiciaire sont que, d'abord, pour être juge, on a besoin de qualifications particulières. C'est-à-dire, il faut être des experts de la loi. Deuxièmement, le fait d'avoir un mandat pour toujours, et pas pro tempore, les rend indépendants malgré le fait qu'ils n'ont pas, disons, une autorisation qui vient directement du peuple. Ils sont élus par les autres branches, ils sont nommés, excusez-moi, par les autres branches, mais ayant tenure, ils deviennent indépendants. Ils ne sont pas indépendants au sens du Congrès et du président, mais ils deviennent indépendants grâce à la tenure. Ces arguments ne sont pas tout à fait persuasifs, je trouve. Et je ne veux pas m'arrêter sur ce point. Je vais essayer d'aller vite à la thèse présentée par Hamilton. Hamilton, dans la section 78, revient sur les critiques adressées à la Constitution concernant l'organisation du pouvoir judiciaire, et il s'arrête sur le mécanisme de nomination et encore plus sur l'importance du pouvoir qui est attribué au juge. Et le point est relativement simple. Hamilton prétend que l'indépendance des cours de justice vis-à-vis des électeurs d'un côté, on l'a vu, et des autres branches du gouvernement central grâce au fait qu'ils ont tenure, est un élément essentiel d'une constitution limitée. Il justifie le pouvoir, donc il accepte le pouvoir important que la constitution attribue au judiciaire, mais il dit que ce pouvoir important est la seule manière, et c'est ça toute la différence avec la conception française, pour avoir une constitution limitée. Par constitution limitée, c'est le texte qui compte le plus, j'entends une constitution qui contient des exceptions spécifiques, ou des limites spécifiques, si vous voulez, au pouvoir législatif. Une constitution qui n'établit ex ante pas de limites spécifiques au pouvoir législatif n'est pas une constitution limitée, est une constitution despotique. Or, la seule manière pour avoir cette constitution limitée est de marquer une ligne qui dit que le pouvoir législatif ne peut pas faire certaines choses. C'est la ligne de démarcation qui est définie par les 10 premiers amendements de la Constitution américaine, n'est-ce pas ? Or, si vous avez une ligne de démarcation, il est évident que cette ligne peut être transgressée et qu'il y a des conflits concernant l'idée de savoir si ces limites ont été respectées ou pas. Et la seule manière pour s'assurer que ces limites ne soient pas dépassées, c'est l'existence, dit Hamilton, de cours de justice qui vont juger si le pouvoir législatif exercé conjointement, comme Arnaud vous a dit la semaine dernière, par le Congrès et le président, a respecté ses limites ou pas. Je peux m'arrêter ici parce que ce qui est plus important, c'est la discussion. Et disons, vous voyez simplement que ce que je voulais montrer, c'est une chose tout à fait simple, en réalité, c'est que pour Hamilton, les juges ont un rôle capital dans le système de la séparation des pouvoirs, ce qui n'était pas le cas chez les pères fondateurs français et ce qui n'était pas le cas non plus chez James Madison. Parce que lisez bien les paragraphes 47-51, il n'est jamais question d'un rôle actif du pouvoir judiciaire dans la balance des pouvoirs. Merci.